la notion d'infiniment petit et pas celle d'infiniment grand. Et troisième façon, à la fois par composition et par division. Et toujours selon Aristote, ce serait le cas du temps et du mouvement, alors ce qui aurait pour conséquence cosmologique que le mouvement des sphères n'aurait ni commencement ni fin, et autrement dit que nous vivrions dans un univers éternel et non créé. Alors on voit tout de suite les conséquences métaphysiques, voire théologiques, que ces premières considérations sur l'infini peuvent avoir. Et par exemple, donc, la thèse de l'infini temporel, prônée par Aristote, c'est-à-dire l'éternité du monde, a évidemment suscité l'opposition chez les partisans des religions révélées, qui étaient soucieux de fonder philosophiquement l'idée de la création du monde par un acte divin. Alors l'infini n'est pas l'apanage ni des mathématiciens ni des physiciens. C'est une sorte de mode intérieur et profond de notre conscience. Et c'est la raison pour laquelle la question de l'infini concerne autant la philosophie, la théologie, l'art ou l'éthique que les sciences de la nature. Bon, mais je cantonnerai en fait ma discussion de l'infini aux sciences de la nature. Alors, pour commencer notre exploration, intéressons-nous de plus près à l'histoire des conceptions relatives à l'extension de l'espace. Est-ce qu'il est fini ou infini? Alors, pour Aristote, l'univers en tant que grandeur physique doit nécessairement être fini, centré sur la Terre absolument fixe et immobile, et fermé par une sphère céleste ultime qui marquerait sa frontière et au-delà de laquelle il n'y a rien. Bien, cette conception sera plus tard adaptée et adoptée par l'Église chrétienne qui considère que dans ce monde fermé et petit, l'homme est au centre et que le paradis, situé au-delà de la dernière sphère physique, est à distance finie, donc accessible. Ça convient bien aux théologiens. Alors, cela dit, déjà pour un philosophe de la Grèce antique bien antérieur à Aristote, qui s'appelait Parménide, le cosmos était l'image du parfait, et donc il devait être pareil à ce qu'il appelait une balle bien ronde. Et donc il était fini et avait nécessairement des limites. Pour son illustre contemporain Héraclite, le cosmos était toujours parfait, à la différence près que la perfection était maintenant assimilée aux transformations permanentes des êtres et des choses. En conséquence de quoi, Héraclite penchait plutôt, lui, pour un univers infini au sein duquel des atomes s'unissent en un nombre infini de combinaisons. La conception infinitiste d'Héraclite a largement été développée par les philosophes de l'école dite atomiste, comme Démocrite ou Épicure. Donc, selon eux, l'espace est un vide sans bornes où se meuvent des atomes indestructibles en nombre infini. Et donc l'atomisme prédit naturellement la pluralité des mondes, chacun correspondant à une combinaison particulière d'atomes. Alors il se trouve que c'est la conception finitiste d'Aristote qui va s'imposer en Occident, et ce pratiquement jusqu'au XVIIe siècle. En effet, l'atomisme est jugé affreusement matérialiste, et puis, de toute façon, les considérations sur l'infini posent trop de problèmes théologiques. Alors, malgré tout, on trouve toujours des dissidents. Alors, par exemple, au XVe siècle, le cardinal Nicolas de Cuse a écrit un traité dans lequel il réaffirme l'infinité de l'univers et la pluralité des mondes. Alors, cela dit, son argumentation est principalement métaphysique, même théologique, en fait. Parce que pour lui, Dieu ne peut pas être limité dans ses œuvres, et donc le résultat de sa création, le monde, l'univers, ne peut pas non plus avoir de limites. En fait, cet argument théologique sera repris notamment par Giordano Bruno, qui périra pour cela sur le bûcher de l'Inquisition en l'an 1600, puis par Descartes, Spinoza et quelques autres. Mais surtout, la thèse de l'infinité du monde a une conséquence fondamentale sur le plan astronomique, à savoir le mouvement de la Terre. Mais en effet, un monde infini ne pouvant pas avoir de centre, la Terre ne peut pas occuper une place fixe et privilégiée dans l'univers. Et donc le mouvement des astres autour d'elle n'est qu'apparent. C'est nous qui tournons